Carnet de campagne, bonjour. Changement de région pendant cette semaine avant de nous rendre en Rhône-Alpes la semaine prochaine, le Languedoc-Roussillon, avec un candidat discret, sauvage, authentique et qui mérite plus que sa réputation de désert rural, à savoir la Lozère. Oui, je sais, 15 habitants kilomètres carrés, c'est peu, mais ça suggère beaucoup d'espaces d'accueil, de places vacantes. Allez-y, peut-être que vous avez un projet. Et la belle destination de la Lozère vous ouvre ses portes. La Creuse, souvent associée à la désertification, possède, elle, en comparaison avec ses 123 000 habitants, une densité de 22 habitants au kilomètre carré. La Lozère, ses Mandes, le chef-lieu, et Florac, l'unique sous-préfecture. La Lozère et son organisme de développement qui mettent en ligne les annonces immobilières professionnelles pour les candidats à l'installation. Le même site mentionne le gain en 10 ans de 1% de population supplémentaire, avec pour objectif, alors ça fait toujours un petit peu sourire, d'atteindre 80 000 habitants en 2013. Je souris à la lecture du titre aussi du paragraphe « Un département tourné vers l'avenir ». Que sera un territoire déclarant être résolument attaché à son passé ou indéfectiblement lié à son présent. Terre de croissance, lit-on encore, sans aucun doute, et de mettre en avant les gorges du Tarn, la haute vallée du Lot, les plateaux de l'Aubrac, les causses du Sauveterre, du Méjean, le parc national des Cévennes, s'en mettre plein la vue et pourquoi pas donc s'investir dans un projet professionnel ici même. Ce fameux site visité est un outil parmi d'autres que je vous conseille à l'adresse suivante, c'est lozere-development.com. La région Languedoc-Roussillon abrite également 12 plateformes d'initiatives locales. Celle de Lozère a son siège à Mende et elle accompagne les futurs installés à l'aide d'un parrainage de chefs d'entreprise et garantit des prêts à taux zéro. Alors là aussi, il y a une adresse, info-entreprise au pluriel LR. .fr, info-entreprise-lr.fr, adresse que vous allez retrouver à notre page carnet de campagne. Vous risquez de rencontrer cette semaine beaucoup de témoins totalement séduits et adoptés par ce département. Daniel Goupy résidait de temps à autre, la retraite arrivée, il s'y est installé fermement et poursuit ses actions au sein de la délégation départementale des maisons paysannes de France. Il est notre premier invité. Caroline Bidot s'est fait prendre au piège lozérien, elle aussi, il y a plus de 15 ans. Cette archéologue est l'animatrice principale du site de Javol, au lieu dit de l'ancienne capitale antique du Gévaudan. Elle sera notre deuxième invitée.
Carnet de campagne sur France Inter.
Ce n'est pas la première fois que nous parlons des maisons paysannes de France, mais elle nous intéresse plus particulièrement concernant le patrimoine bâti de Lozère, avec quelqu'un qui a été président de l'association Maisons paysannes de Lozère. C'est Daniel Goupy. Daniel, bonjour.
Bonjour.
J'ai trouvé un article sur vous, Daniel Goupy, l'ingénieur et les trois pierres. oui, parce que votre histoire, vous étiez ingénieur informatique. Vous avez été employé pendant très longtemps aux États-Unis. Vous avez terminé votre carrière à Paris et vous décidez de vous installer en Lozère.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une maison depuis bientôt 50 ans maintenant en Lozère que nous restaurions pendant tous les congés, mais effectivement, la vie professionnelle était à Paris.
Les trois pierres, et, pardon.
Oui, alors trois oui. pierres, c'est-à-dire qu'en fait, la Lozère, si vous voulez, on a ce privilège d'avoir des pierres complètement différentes. Hein. D'une part, le granit donc sur l'Aubrac, la Margeride et le Mont Lozère, qui a donné lieu à une architecture massive avec des gros blocs incorporés, de façon formidable. Ensuite, une autre pierre complètement différente sur les Causses, dans les Causses, qui elle a donné lieu parce que les Causses étaient à une certaine époque complètement désertiques, il n'y avait pas de bois, et donc c'est une architecture de voûtes, des voûtes formidables qui ont été faites par des gens qui étaient des maçons expérimentés, mais qui n'étaient pas des hommes de l'art officiels. Et puis une troisième région qui est la région du schiste, c'est-à-dire les Cévennes. Alors là encore, une architecture complètement différente, mais très originale. Voilà, donc avec en plus des couvertures qui sont souvent minérales, puisqu'on trouve soit dans la première région, c'est-à-dire la région du granit et dans les Cévennes, des toitures en lauze de schiste, et puis sur les plateaux, c'est-à-dire sur les Causses, on trouve des couvertures en calcaire épais, de la lauze de calcaire, qui est une technique tout à fait particulière et qu'on essaie de maintenir ce savoir-faire. contraire.
C'est un patrimoine architectural qui est magnifique. Et alors, Daniel, vous n'allez pas dire le contraire, mais entre nos anciens architectes et anciens bâtisseurs et l'éco-construction moderne, il y a un lien.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je crois qu'on parle souvent d'architecture sans architecte quand on parle de ce patrimoine rural ancien. Il y avait une notion d'harmonie qui nous frappe toujours dans la façon dont les gens créaient et reprenaient les choses. Alors le lien avec l'éco-construction maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, toute cette expérience de ce bâti rural traditionnel, on la retrouve dans les préoccupations qu'on met au début d'une réflexion d'éco-construction. Mmh. On regarde l'emplacement de la maison, on tient compte des vents, du soleil, bien entendu, du soleil d'été, du soleil d'hiver, enfin, vous voyez, les circulations, tous ces éléments. Et puis, nos anciens, en plus, avaient une notion d'intégration du paysage qui était tout à fait fabuleuse. C'est-à-dire qu'on allait protéger une maison un peu isolée par un bouquet d'arbres, un ou deux arbres qui modifiaient un petit peu l'esthétique globale et puis qui avaient un rôle aussi à la fois d'ombre, de protection des vents, etc. etc.
Oui. Maison paysanne de France guide, enfin Lozère en particulier, mais comme partout, mais chez vous plus particulièrement avec ce patrimoine, vous guidez, vous conseillez, vous tentez aussi de réhabiliter des savoir-faire, donc des gestes, appuyés par des matériaux qui ont été perdus.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il se trouve qu'au fil du temps, des savoir-faire se sont évaporés en quelque sorte. C'était le cas de la construction pierre sèche, qui est très très présente en particulier dans les Cévennes, où là, vous savez, les reliefs sont assez forts, donc on retenait la terre pour avoir des petites bandes cultivables, qui sont des terrasses, qu'on appelle des bancelles dans notre secteur, et qui sont maintenues par des murs en pierre sèche, qui laissent passer l'eau et qui ont donc des vertus de réchauffer la terre, etc. Et donc cette technique était partie en déshérence et on a pu remettre en place, à travers une association sœur, des compétences et puis on les utilise maintenant pour former les gens qui sont intéressés et qui veulent apprendre, parce que n'importe qui peut apprendre à faire un mur en pierre sèche. C'est un exercice extrêmement valorisant. Et puis, c'est aussi une occasion, parfois, de remettre des gens debout, les remettre avec un métier. Et ce métier, maintenant, caractérisé par une reconnaissance de murailleur. Il existe un certificat de qualification professionnelle qui a été récemment obtenu et qui fait que ce nouveau métier, entre guillemets, bien entendu, peut constituer une carrière pour des gens.
Il y a une adresse indispensable pour toutes les personnes intéressées, maisonpaysannedelozeretoutattaché.org. Merci Daniel Goupy.
Mais je vous en prie.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Caroline Bidot, bonjour.
Bonjour.
Caroline, décidément encore une personne conquise par la Lozère. Vous, c'était en 96.
Tout à fait. Je cherchais du travail et j'ai eu la chance de tomber sur ce site archéologique qui renaissait d'une certaine façon, puisqu'on y remettait à jour le site, bien qu'il était très anciennement connu.
Vous êtes archéologue, un archéologue qui cherche du travail, vous êtes nombreux comme ça, il y a des archéologues au chômage?
À l'époque, il y en avait beaucoup plus que maintenant, on a la chance d'avoir un peu plus de débouchés, mais ça n'est quand même pas un métier, ça fait toujours rire les gens de dire que c'est un métier d'avenir.
Je suis étonné par la densité et l'importance du site sur lequel vous vous investissez à Javol. En Deritum, il faut dire.
Tout à fait, c'est le nom de l'époque romaine, au moment où la ville est créée par les Romains. Oui.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de cette ville, donc qui était une capitale à part entière, qui a eu ses heures de gloire entre le 1er et le 3e siècle. On a une idée de l'importance de cette ville et de ses habitants?
Alors, on ne peut pas la donner par la population, parce que c'est très difficile de quantifier le nombre d'habitants à cette époque-là, puisqu'il n'y a pas de recensement qui permette d'être exhaustif. Ce qui nous permet, nous, de connaître son importance, c'est sa parure monumentale, qui est comparable à n'importe quelle grande ville de l'époque romaine, à n'importe quelle capitale, puisqu'on y trouve un forum, des thermes, une basilique, un bâtiment d'administration, donc de justice, des quartiers d'habitation riches, ce qu'on appelle des maisons de riches, des domus, et puis une superficie de 40 hectares.
Comment se fait-il que cette ville ait été créée à cet endroit, donc, dont les températures sont très très basses l'hiver, très très basses, il fait jusqu'à moins 30 degrés.
Sans doute parce que les critères stratégiques qui étaient mis en place par les Romains pour la création de ces capitales, qui étaient en fait des places stratégiques au sens commercial, politique, de redistribution des denrées locales vers les grands axes, n'étaient pas les mêmes que les nôtres, sans doute. La raison du choix ici nous échappe encore, c'est pour ça qu'on continue à y faire des recherches. Mais sans doute parce que à cette époque-là, on habite à la campagne et qu'on a besoin de ces têtes de pont dans des endroits stratégiques, justement, et qui drainent en fait cet ensemble de ressources locales, donc partout dans la campagne.
Et les ressources économiques principales donc, de cette ancienne capitale des Gabales ?
Alors, pour l'époque romaine, ça reste quand même assez proche de la nôtre, figurez-vous.
Ah oui.
C'est le bois, qui est sans doute la première des ressources qui est exploitée. Alors, le bois sous toutes ses formes, charpente, chauffage et aussi extraction de résine. C'était sans doute quelque chose de très important, puisque la résine qui était transformée donc en poids, qui était une panacée universelle dans l'Antiquité, a dû faire les heures de gloire du pays des Gabales, puisque le nom des Gaulois ici sont les Gabales.
Oui.
Et ensuite, sans doute aussi, les tonneaux. Voilà, donc c'est le bois principalement, après un peu de ressources minières, du plomb argentifère, qui là aussi est très important à cette époque-là, le plomb qui sert à fabriquer beaucoup de choses, et l'argent qui servait à fabriquer les monnaies, peut-être vers la capitale très plus importante qui se trouve juste à côté d'ici, qui est Nîmes.
Qu'est-ce qui va expliquer le déclin au IIIe siècle de cette capitale du Gévaudan ?
Sans doute parce que la ville, c'est quelque chose de très, comment dire, décalé par rapport à la réalité concrète du terrain. On est dans un pays rural, même encore maintenant. Que la ville, c'est un choix stratégique et que le pouvoir qu'il a mis en place ici l'a fait pour des raisons stratégiques qui n'étaient plus adaptées au IIIe siècle. Rome est beaucoup moins présent dans l'occupation de l'espace de l'Empire romain. Rome a d'autres problèmes dans l'Empire romain et le fait de maintenir ces villes, c'est certainement une grosse difficulté en partie économique.
Mmh.
Et puis le fait que ce qui fait la richesse de cette capitale, c'est justement la campagne et que les riches propriétaires qui administrent ce territoire pour le compte de l'Empire romain habitent à la campagne.
Mmh.
Et donc, vivant à la campagne, ils ont moins intérêt à être à la ville.
Vous avez été adopté, comme je disais au début, par la Lozère. Est-ce que les Lozériens ont adopté cette capitale antique du Gévaudan ?
Il y a eu, en l'espace de 15 ans, beaucoup de rapprochements entre les habitants de Javol même, bien sûr, et puis les habitants du département, avec ce site. Et que le fait d'être à la campagne, ça pouvait être un avantage aussi, puisque
bien
ça
sûr
a protégé le site.
Et puis s'il y a des animations nombreuses, c'est que vous y êtes quand même pour quelque chose, parce que je cite donc Élodie qui nous avait écrit: je suis certaine qu'elle a fait naître bien des vocations archéologiques parmi les petits scolaires de Lozère. Et c'est une femme dotée d'une énergie incroyable et d'un moral à toute épreuve.
Ben, j'espère que je me porte fidèle à l'énergie qui est portée par tous ici. Hein.
Et ça permet de rappeler que l'histoire procède aussi de notre avenir et participe à notre avenir. Merci beaucoup, Caroline Bidot.
Ben, je vous remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour votre émission.
Avec plaisir. Au revoir. À la fin de cette semaine, le jeu des 1000 euros s'installera dans le village de Saint-Germain de Calbert. Encore un petit bijou Cévenol qui possède une association de musique exceptionnelle vu la taille du village. 450 habitants, l'association s'appelle la Musicole. Elle fait partie, comme l'indique Stéphane, correspondant du jour, de la Fédération des écoles de musique des Hauts-Gardons, étendue sur 4 vallées des Cévennes et qui compte 200 adhérents et 17 profs de musique. L'attachement des musiciens à ces lieux est tel que la Musicole organise tous les 2 ans un festival qui a choisi de s'appeler le Tout Petit Festival. Ça donne des concerts promenades, des soirées musicales au temple du village, ainsi que des ateliers d'initiation pour les enfants. Mais surtout, le programme est tout autant classique que jazz et contemporain. Le site du Tout Petit Festival a mis en ligne les reportages de très bons photographes, des reportages qui donnent presque à entendre l'harmonie qui se dégage de ce rendez-vous. Anne, présidente de l'association, a par ailleurs une ferme. Elle est paysanne et elle propose un accueil insolite à sa ferme. Alors vous pouvez trouver les liens sur le site. Le prochain festival n'aura lieu, hélas, qu'en août 2013, donc il faut patienter un tout petit peu. L'adresse, c'est le tout petit festival musical, toutattaché.fr. Normalement, Nicolas Soufflet vous en dira deux mots à la fin de semaine. Et puis, les jours derniers, on a reçu à nouveau de nombreuses demandes pour connaître les références des musiques, des petites virgules sonores que vous entendez régulièrement, enfin les virgules musicales. Et puis, notre petit indicatif des carnets de campagne, il s'agit du groupe Schkrr. Ça s'écrit C-H-K-R-R-R. C'est un trio infernal. Ils jouent... sous tous les modes, bande-son imaginaire, histoire rêvée, fragments, sédiments de mémoire cachée, disent-ils. Enfin, allez sur leur site schkrr.com, ils sont vraiment formidables. Juste avant de nous séparer, les prochaines destinations pour les cafetages, le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Drôme. Merci pour les cafetages.